Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Élection au Sénégal. La campagne électorale pour la présidentielle du 24 février a connu des violences entre dimanche et lundi qui ont fait 3 morts dans la région de Tambacounda, au sud-est de la capitale Dakar. Les victimes ont été tuées dans des affrontements entre des partisans de la coalition au pouvoir et ceux d'Issassal, un candidat de l'opposition. De Dakar, des détails avec notre correspondant Sedina Abagay.
Tout a commencé le dimanche avec une querelle d'affichage entre les militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement du candidat Issassal et ceux de la coalition Benno Bokoyakar du président sortant Macky Sall. Rapidement, cela a dégénéré en affrontement et un jeune militant de la coalition au pouvoir a été mortellement poignardé par la garde rapprochée du candidat Issassal. À l'annonce de sa mort, des jeunes de Tambacounda ont manifesté leur mécontentement en mettant en place des barricades. Certains militants de Benno Bokoyakar, eux, barrent la route nationale avec leur moto et attaque le convoi du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Un des chauffeurs du convoi fonce sur les jeunes conducteurs de moto et tue 2 d'entre eux, portant ainsi le bilan à 3 morts. Plusieurs blessés ont aussi été enregistrés, dont 2 graves parmi les journalistes. Le bus de la presse, un minibus et 2 véhicules du convoi du candidat Issassal ont été incendiés, tout comme la maison où les journalistes avaient trouvé refuge. Alors que sa garde rapprochée est incriminée, le candidat Issassal, lui, accuse l'État du Sénégal d'avoir failli au plan sécuritaire. De son côté, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces violences meurtrières. À Dakar, Sedina Abagay pour VOA Afrique.
Élection au Nigeria, maintenant l'APC, le parti au pouvoir, a accusé les États-Unis de miner la confiance du pays alors que les électeurs se préparent à se rendre aux urnes. Washington avait appelé à des élections libres et sans intimidation à l'occasion des scrutins présidentiels et législatifs prévus le 16 février. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Des déclarations pareilles minent la confiance du pays, a affirmé dans un communiqué Festus Keyamo, porte-parole du Congrès des progressistes APC, le parti au pouvoir. La semaine dernière, les États-Unis ont appelé le Nigeria à faire en sorte que les élections soient libres, justes, transparentes et pacifiques, et que la commission électorale puisse travailler sans subir d'intimidation. Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, avait lancé une mise en garde à ceux qui interfèrent avec le processus électoral ou incitent à la violence, qui devront rendre des comptes. Le gouverneur de l'État de Kaduna, Nasir El-Rufai, avait proféré des menaces ouvertes contre les étrangers qui veulent intervenir dans le processus électoral. Il avait lâché dans un meeting électoral, je le cite, « Personne ne viendra nous dire comment diriger notre pays ou ils repartiront dans des sacs mortuaires. » Samedi prochain, le président sortant Muhammadu Buhari brigue un second mandat face à Atiku Abubakar, ancien vice-président et porte-drapeau du PDP, le principal parti d'opposition.
Afrique centrale maintenant, Gabon, la nouvelle ministre gabonaise de la Défense nommée fin janvier prête serment ce mardi devant le président Ali Bongo Ondimba à l'ambassade du Gabon au Maroc, pays où le chef de l'État gabonais est en convalescence depuis fin novembre. Madame Rose Christiane Osuka Raponda, ancienne maire de Libreville, la capitale, a été nommée lors d'un remaniement ministériel le 30 janvier, 2 semaines après la prestation de serment des autres membres du gouvernement devant le président Bongo, qui était revenu quelques heures au Gabon pour l'occasion. Relation RDC-Rwanda, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi poursuit son offensive de charme à l'égard des leaders des pays voisins. Il a rencontré ce week-end le chef de l'État rwandais Paul Kagame qui avait émis de sérieux doutes sur sa victoire à la présidentielle du 30 décembre. Des consultations en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie où les deux chefs d'État ont parlé de bon voisinage et de franche coopération. La RDC et le Rwanda ont des relations tendues depuis 25 ans. Kinshasa accuse Kigali de piller ses minerais dans la province du Nord, Kivu, frontalière du Rwanda. Kigali, pour sa part, dénonce la présence de rebelles hutus rwandais FDLR dans l'est de la RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection RDC maintenant, après la présidentielle et les législatives nationales et provinciales du 30 décembre, l'heure est à la préparation des sénatoriales et des élections des gouverneurs des provinces prévues en mars. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a clôturé le dépôt des candidatures. Et en attendant le début de la campagne électorale et le jour du scrutin, les différents états-majors se préparent. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Seuls 24 des 26 provinces sont concernées par ces élections. Le Nord Kivu et le Maïndombé à travers Beni, Beniville, Butembo et Yumbi qui n'ont pas pu voter le 30 décembre dernier pour des raisons sécuritaires et sanitaires attendront les élections des députés nationaux et provinciaux avant les sénatoriales et le renouvellement des gouverneurs et vice-gouverneurs. Les différents états-majors des partis et regroupements politiques, eux, préparent sérieusement ces importants scrutins. Jacquemin Chabani est le président de la Commission électorale permanente de l'UDPS.
Nous partons à ces élections avec de grandes ambitions. Il faut savoir que c'est une campagne, c'est un exercice auquel nous allons nous offrir à la mesure et à la grandeur de notre parti. Prenez le temps de voir d'abord les candidatures que nous allons placer et puis au résultat, nous allons faire les décomptes ensemble.
Arrivé premier sur la liste des partis politiques ayant obtenu plus de députés aux législatives nationales, le PPRD veut rééditer le même résultat au sénatorial. Willy Bakou Konga est le secrétaire permanent adjoint du parti de Joseph Kabila.
Le PPRD est en train de se préparer encore pour être toujours la première force. Le PPRD a l'ambition d'avoir beaucoup de sièges au niveau de l'État, même au niveau des gouverneurs et vice-gouverneurs.
Au total, 108 sénateurs, plus le président sortant Joseph Kabila, désormais sénateur à vie, vont composer la future chambre haute du Parlement. À Kinshasa, l'enjeu majeur, c'est aussi le remplacement de André Kimbuta comme gouverneur de province. Les Kinois interrogés à ce sujet ont dit leurs attentes.
Nous attendons beaucoup de ce nouveau gouverneur de Kinshasa parce que le gouverneur qui est venu avant l'a laissé la ville dans une situation très délabrée. La ville de Kinshasa, elle est la ville la plus sale. Donc nous souhaitons d'abord que ce soit un monsieur qui arrivera à maîtriser et à urbaniser la ville et au-delà de ça, vraiment de travailler pour l'intérêt de la ville, non pas pour ses propres intérêts, s'acheter des immeubles, avoir du personnel de l'hôtel de ville d'abord qui ne sont pas payés.
Ce que nous attendons vraiment du gouverneur de Kinshasa, nous avons tellement envie de quelqu'un qui va travailler. Comme par exemple les poubelles qui sont partout, qu'il y ait un gouverneur dès qu'il arrive, qu'on puisse sentir vraiment qu'on a un gouverneur. On a tellement de choses qu'il faut qu'un gouverneur fasse et que l'autre ancien gouverneur n'a pas fait.
Nous sommes tous d'accord, mais si André Kimbuta a vraiment failli, il faut qu'il y ait un autre gouverneur compétent pour qu'il y ait un changement un peu dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est maintenant comme la ville la plus sale.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, poursuite des violences dans les régions anglophones alors que le pays a célébré lundi 11 février la fête de la jeunesse qui marque le référendum de février 1961 et réunit les Camerounais anglophones à leurs frères francophones. Quatre personnes ont été tuées hier par des hommes armés dans l'hôpital de Kumba, ville anglophone du Sud-Ouest. Plus de détails avec Morgane Guiriek.
Les assaillants ont tué quatre personnes à l'hôpital de Kumba et ont incendié le bâtiment, selon un responsable de cette ville. L'identité des victimes n'a pas été dévoilée. Kumba est à environ 70 km au nord de Boya, l'une des villes les plus touchées par le conflit. Les séparatistes anglophones avaient menacé de s'en prendre aux célébrations du 11 février, marquant la réunification entre les régions anglophones et francophones. Depuis début février, au moins quatre personnes ont été tuées à Boya, dont une a été décapitée. En février 2018, les séparatistes avaient aussi multiplié les attaques. Le président Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 36 ans, a appelé plusieurs fois les séparatistes à déposer les armes, répétant que ceux qui ne le feront pas seront neutralisés. Selon l'ONU, 437 000 personnes ont été déplacées par ce conflit et plus de 32 000 ont fui vers le Nigeria voisin.
Actualité ici aux États-Unis pour terminer. Les négociations entre parlementaires républicains et démocrates ont permis d'aboutir lundi soir à un accord de principe sur le financement de la sécurité aux frontières et éviter ainsi un shutdown, une nouvelle paralysie de l'administration fédérale moins d'un mois après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Nous avons trouvé un accord de principe pour le financement de la sécurité frontalière jusqu'au 30 septembre, a déclaré aux journalistes le sénateur républicain Richard Shelby, sans préciser si des fonds seraient alloués à la construction du mur réclamé par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.